Bienvenue dans notre émission historique Rendez-vous avec l'Histoire. Rendez-vous mensuel proposé par Ronald Dubcher, historien, spécialiste d'histoire sociale contemporaine. Pour cette deuxième émission, nous nous intéressons aux Chevaliers du Ciel, les aviateurs au combat pendant la Première Guerre mondiale. Notez également que vous pouvez retrouver cette émission sur radioroyan.fr. Les Chevaliers du Ciel, nouveau rendez-vous avec l'histoire en compagnie de Ronald Dubcher. Ronald, bonjour.
Bonjour.
En 2016 a été commémoré le centenaire de la bataille de Verdun, bataille dans laquelle l'aviation a tenu pour la première fois un rôle essentiel. Pourtant, il semble que l'aviation militaire était encore très récente. Que pouvez-vous nous en dire? Qu'en est-il?
Effectivement, ce développement et cette transformation de l'aviation a été très rapide. En effet, au début de la Belle Époque, bien peu de personnes auraient parié sur l'avenir de cette aviation, et en particulier d'une aviation militaire. Certes, il y avait déjà de valeureux pionniers. On peut songer par exemple à Clément Ader, aux Américains, les frères Wright, aux Brésiliens Santos des Dumont, qui arrivent à arracher leur appareil à quelques mètres au-dessus du sol. Mais on voit déjà des passionnés de l'aviation venir sur le terrain, la banlieue parisienne d'ici les Moulineaux, et commencer déjà à tourner autour de ce terrain et à s'élever à déjà un peu plus de quelques mètres. Enfin, il ne faut pas oublier qu'en 1903, Blériot traverse la Manche. C'est un exploit extraordinaire. Et en 1913, Roland Garros traverse la Méditerranée. Donc les choses vont quand même très vite. Cela dit, on a une petite élite de mordus du sport. Et il faut effectivement avoir les moyens pour voler et se payer, comme on disait à l'époque, un aéroplane. C'est donc une élite largement argentée qui pratique cette activité. Et alors on constate rapidement que l'enthousiasme que ce sport suscite, ce nouveau mode de locomotion, dirons-nous, et des intérêts économiques et financiers bien compris, vont faire que des mécènes vont rapidement s'y intéresser.
Alors oui, qui s'intéresse à l'aviation?
Alors vous avez d'abord des journaux. Vous avez par exemple le Daily Mail, le grand journal anglais, qui propose un prix conséquent pour la traversée de la Manche. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est Blériot qui est le vainqueur, un prix de 25 000 francs. Or, et c'est donc une somme énorme. Le ministère des Travaux publics, lui aussi, prévoit une ligne budgétaire pour encourager ce qu'il appelle ce nouveau moyen de locomotion aérienne. Vous savez aussi, parmi les gens qui sont toujours à la pointe des nouveautés de la vitesse, le petit monde, des gens aisés, des happy few, comme on les appelle, et qui pratiquent également l'aviation. Alors, en revanche, il est intéressant de constater que les états-majors sont sceptiques sur l'intérêt que peut présenter sur le plan militaire l'aéroplane. Et alors là, je citerai quand même, parce qu'elle est tout à fait éclairante, cette phrase du général Foch, qui était à l'époque le directeur de l'école de guerre, et qui disait la chose suivante: « Tout ça, c'est du sport, pour l'armée, l'aviation, c'est zéro. Bon, il faut dire qu'il est revenu sur cette opinion rapidement lancée. Alors finalement, dans le milieu militaire, seule une poignée d'officiers qui sont issus de l'artillerie et du génie, parce que ce sont les deux armes qui se disputent le contrôle du nouveau venu qu'est l'aéroplane, ce sont ceux-là, donc, et comme je le dis, peu nombreux, qui suivent des cours de pilotage, mais dans des écoles civiles, parce que l'armée n'a absolument pas d'école, étant donné qu'elle n'en voit pas l'intérêt. Pourtant, les choses vont aller assez vite, parce que l'armée effectue chaque année des manœuvres, ce qu'on appelle les grandes manœuvres. Elles ont lieu en Picardie en 1910. Et pour la première fois, des avions y participent. Et là, le ministère de la guerre est convaincu de l'intérêt que les avions peuvent apporter à l'armée de terre. Et on commande en 1911 200 appareils. Par ailleurs, l'armée crée un brevet d'aviateur militaire. Il y avait déjà un brevet qui existait, c'était celui de l'Aéroclub de France. Mais les militaires jugeaient que ce brevet ne présentait pas des qualités suffisantes au point de vue du professionnalisme, si on peut dire. Donc, ils créent un brevet militaire. À la veille de la guerre, il y a 4 écoles militaires de pilotage. Et au moment de l'entrée en guerre, eh bien, l'aviation française peut aligner 132 appareils dans 23 escadrilles.
Pour l'instant, l'aviation militaire n'a pas encore fait ses preuves, mais on lui donne les moyens quand même.
On lui donne absolument les moyens. Et là, une bonne partie de l'armée est convaincue que pour certaines opérations, l'aviation peut être utile.
Donc vous avez bien évoqué déjà une sorte de fascination qui s'exerce à l'attention de l'aviation militaire. D'où sortent les gens qui s'intéressent à l'aviation militaire? Quelle est leur origine sociale?
Eh bien, d'abord, disons que globalement, beaucoup de jeunes gens voient dans l'aviation l'accomplissement d'un rêve, d'une vocation précoce. Et cela a été provoqué par le spectacle des hommes volants, hein, quand ils vont voir... les aéropilotes, si je veux dire, s'entraîner sur ce qui sert de terrain d'aviation. Ils lisent aussi une presse. Il y a une presse qui laisse une très grande part à l'aviation, aux exploits des audacieux et des aventuriers du ciel. Bon, cette jeunesse est aussi fascinée par la vitesse. La vitesse, c'est toujours elle est à l'ordre du jour. On peut penser à l'automobile. Hein. Beaucoup de gens s'intéressent à l'automobile à ce moment-là. Et d'une façon générale, disons, ce qui relève de la mécanique. Hein. Et un autre élément, je crois, qu'il faut prendre en compte, c'est l'attrait pour le sport. Le sport, en effet, c'est... développé en France autour des années 80, à l'instigation de Coubertin, du baron de Coubertin, qui a remis à l'honneur les Jeux Olympiques. Et on trouve dans le sport toute une série de satisfactions que l'on va pouvoir trouver dans l'aviation. Par exemple, le sport, c'est une compétition. Compétition, c'est un combat. C'est un combat euphémisé, mais c'est un combat. On s'affronte avec un adversaire et avec fair play. Il n'y a pas de coup tordu. On apprend le dépassement de soi, à se contrôler et avoir un esprit de décision. Donc, autour de toutes ces valeurs que développe le sport, on a une espèce de morale... de morale de chef, de dirigeant, de morale de gagneur. Morale de gagneur, eh bien, c'est le chef, c'est celui qui réussit. Et par conséquent, sur le plan social, on va trouver ces éléments, surtout au sein de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Et On peut constater qu'au départ, d'ailleurs, l'aviation militaire recrute des gens de culture sportive. On demande dans les affiches de recrutement des gens qui auraient une pratique du sport. Et nombre d'entre eux, d'ailleurs, s'engagent. Et alors pour eux, pour ces gens qui déjà pratiquaient du sport avant la Grande Guerre, et notamment qui pratiquaient le sport, le rugby et le football association dans les lycées et dans les universités, où à l'époque c'était essentiellement des éléments de la bourgeoisie que l'on trouvait, les enfants de milieux, disons, aisés, eh bien, ce goût du sport, ils vont le prolonger au cours de la guerre. Et pour certains d'entre eux, la guerre sera une sorte de sport. Enfin, il faudrait, pour peut-être terminer là-dessus, évoquer ce que j'appellerais l'ère du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ère du temps? Eh bien, c'est un goût de l'action. Beaucoup de littérateurs développent cette idée que la France de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, est une France un peu molle, sclérosée. Il y a beaucoup de tendances anti-intellectualistes. Les intellectuels sont moqués, en quelque sorte, et on leur oppose l'homme d'action, l'homme au combat. Et alors, le sport, évidemment, favorise cet état d'esprit. Et je crois qu'il faut en tenir compte.
Vous écoutez Radio Royan et les rendez-vous avec l'histoire. Au-delà de ceux qui pilotent les avions et qui ont une image de sportif, pourrait-on dire, il y a aussi toutes les compétences techniques liées à l'aviation.
Exactement. Et il faut voir que d'abord, c'est un premier point important, c'est que les petits citadins sont privilégiés par rapport aux paysans, aux enfants de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches en général des terrains où s'exercent les pionniers de l'aviation. Je citais tout à l'heure le cas d'Issy-les-Moulineaux. Beaucoup de petits Parisiens s'y rendent, ils servent parfois de grouillots. Ils se couchent, par exemple, on leur donne des ordres, on leur dit « toi, tu vas te coucher là-bas au bout du terrain, tu regardes si les roues décollent. » Et alors tu nous dis si ça décolle ou si ça ne décolle pas. Ou de retenir la queue des avions quand l'avion atterrit. Enfin, ils sont ravis, évidemment, de participer, là, et d'être dans le monde des aviateurs. Ils accèdent aussi, pour certains, les plus privilégiés, à des meetings aériens qui se tiennent dans les grandes villes. Et pour d'autres, eh bien, il y a les magazines. En effet, il y a beaucoup de magazines déjà spécialisés dans l'aviation, voire des magazines pour jeunes, qui laissent une place à des récits sur les exploits des hommes oiseaux. Donc là, des opportunités que n'ont pas les populations rurales. Et alors, ce qui est amusant, c'est que bien sûr, certains jeunes ne se contentent pas de regarder ou de lire, mais ils veulent bricoler eux-mêmes, faire leur propre appareil. Ainsi, à 9 ans, Joseph Franz, qui a été un futur as de l'aviation française et qui a été le premier à abattre un avion allemand au début de la guerre, eh bien, il essaye de voler avec des planches articulées les unes aux autres. Un autre fabrique un biplan avec du papier et des allumettes. Un troisième, avec l'aide du curé de sa paroisse et dans l'église, fabrique un avion, en 1910, un avion à pédales. D'autres se contentent de modèles réduits. Et je pourrais citer par exemple le cas du jeune Parisien Guinmer, qui a fabriqué un planeur qu'il a essayé d'ailleurs par la suite dans sa résidence, on dirait, comme on dirait maintenant, sa résidence secondaire à côté de Paris. Donc il y a tout un travail qui est fait, un travail manuel pour essayer de voler. C'est assez extraordinaire.
Hein. Un petit temps des expérimentations quelque part.
Exactement. Et alors ça explique tout cela sous ce goût, cette fascination pour l'aviation, sous ses modèles les plus divers. que de nombreux jeunes gens, au moment où quand ils sont mobilisés et faire la guerre, souhaitent servir dans l'aviation. Et on constate en effet que parmi les navigants, alors le navigant c'est à la fois le pilote mais son observateur, celui qui l'accompagne, qui est chargé de régler les tirs d'artillerie du sol, de voir surveiller les premières lignes, voir comment elles ont bougé, comment elles se sont dessinées, vous faire de la reconnaissance. Donc ce sont les observateurs. Eh bien, on constate que leur âge d'entrée, pour 50%, se situe entre 18 et 25 ans. Donc vous voyez, ce sont vraiment de très jeunes gens qui entrent dans l'aviation. Et autre caractéristique, mais l'une explique l'autre, 80% sont célibataires. Autre caractéristique enfin, à la différence de l'ensemble de l'armée, où bien sûr vous avez des officiers, des sous-officiers et l'homme de troupe, vous avez jusque vers 1917 à peu près une dominante écrasante d'officiers et de sous-officiers qui constituent les trois quarts de l'effectif. C'est quelque chose de tout à fait unique dans l'armée française. Ce sont des galonnés en quelque sorte. Et c'est donc un renversement total de la hiérarchie traditionnelle. Ajoutons enfin que pour deux tiers des officiers, ils sont issus de la cavalerie ou de l'artillerie. La cavalerie, ce n'est pas un hasard. La cavalerie est l'arme noble par excellence et qui a ses traditions. Et un certain nombre d'ailleurs de ces aviateurs sont issus de la noblesse. Et l'artillerie, il faut de la technique, il faut des techniciens. Et on trouvera sans surprise des polytechniciens, des centraliens, qui sont dans ces armes.
Et plus spécifiquement, leur origine sociale, alors laquelle est-elle ?
Alors, c'est encore une originalité de ce qu'on trouve chez les aviateurs. Si l'on prend par exemple déjà le cas des parents, qui est un indice sérieux, eh bien, on constate que 60% des parents de ces aviateurs appartiennent à des milieux aisés de la société. Officiers de carrière, profession libérale, industriels et ingénieurs, venant derrière un peu plus loin les négociants et les hauts fonctionnaires. Mais en revanche, le monde de l'artisanat, le monde du commerce, le monde des employés, qui représente quand même des effectifs conséquents, ne représente que 15% de l'ensemble. Pour ne pas parler des agriculteurs qui sont la dominante à l'époque de la population et qui ne représentent que 5% du personnel navigant. On voit très bien qu'il y a un clivage social, vraiment un mur en quelque sorte, un plafond de verre, dirait-on maintenant d'une certaine manière, pour ne pas parler des ouvriers qui sont quasiment au niveau des navigants inexistants. Donc, les aviateurs, on le voit, se recrutent dans des catégories favorisées de la population, et ce sont généralement des jeunes gens qui ont fait des études poussées. 48% des officiers ont fait des études supérieures, 45% des gradés. Ce qu'on appelle gradés, ce sont les sous-officiers parmi lesquels il y a de nombreux étudiants. Les deux tiers sont issus des grandes écoles, Polytechnique, Centrale, les mines. Bon, les arts et métiers viennent derrière, mais n'avaient pas le niveau qu'elles ont maintenant. Elles sont quand même bien derrière Centrale et Polytechnique. Et il conviendrait quand même aussi d'y ajouter les bacheliers, parce qu'être bachelier à l'époque a une toute autre signification que de nos jours. On peut déjà s'établir et avoir une très bonne situation en étant un bachelier. Bachelier ouvre l'enseignement supérieur et de toute façon, ne serait-ce qu'avec le titre de bachelier, on peut faire de bonnes carrières.
Vous écoutez Radio Royan, les rendez-vous avec l'histoire en compagnie de Ronald Dubcher. Ce mois-ci, les Chevaliers du Ciel, l'aviation militaire de 1914 à 1918. Vous venez de bien mettre en évidence l'originalité que constitue ce corps d'aviateurs et en tout cas toutes les personnes qui naviguent autour de l'aviation militaire. On évoque aussi fréquemment le quotidien du poilu, qui est souvent sordide, notamment dans les tranchées. Qu'en est-il ? Des aviateurs sont-ils logés à la même enseigne ?
Alors, ces aviateurs, dont on voit qu'ils ont des caractéristiques quand même très spécifiques par rapport à l'ensemble de ce que pourraient être les soldats de l'artillerie et à plus forte raison de l'infanterie, eh bien, disons d'abord que pour l'opinion commune, les aviateurs sont les héros des temps modernes. C'est l'image d'un homme qui côtoie les dieux. Et ces aviateurs, alors, évidemment, sont tentés d'afficher avec une certaine ostentation leur spécificité et leur identité particulière. Alors, ces aviateurs, au départ, n'ont pas d'uniforme spécifique. En effet, les aviateurs sont rattachés à leur corps d'origine. Ils sont simplement détachés dans l'aviation. Artilleurs détachés dans l'aviation, cavaliers détachés dans l'aviation. Si bien qu'ils ont des tenues tout à fait originales, faites de briques et de broc, des casquettes fantaisie, certains se font même commander, ceux qui ont les moyens, des costumes sur mesure chez un tailleur avec des bottes reluisantes. Et on ne leur dit pas grand-chose finalement parce que c'est une arme encore qui est très floue. Ce n'est d'ailleurs pas encore, loin de là, une arme, elle le sera bien plus tard, en 1933, légalement, si j'ose dire. Alors, ce qui est important aussi, c'est de montrer son appartenance au corps de l'aviation, corps prestigieux qui suscite l'admiration. Et l'un de ces aviateurs, nommé Paul Honora, le rapporte et le rappelle en disant que lorsqu'il prenait le métro et qu'il portait sur un uniforme les ailes, qui indiquait son identité, les gens le regardaient avec une certaine admiration. Et il dit, lorsque j'avais cet uniforme et sans les ailes, personne ne me regardait. Donc on voit bien là cette admiration qui est portée par le public aux aviateurs. Alors, on ne s'étonnera pas, évidemment, si toute une légende entoure les conquêtes amoureuses de ces aviateurs, de ces chevaliers du ciel, disons des dangereux aux petits pieds, d'une certaine manière, et auxquels les femmes ne refusaient pas, dit-on, leur faveur, à Paris comme en province. Et l'un d'eux rapporte que lorsqu'il était à l'école d'aviation de Juvisy, après la soupe, quand il sortait le soir, vers 6h30, il y avait une quinzaine de jeunes filles et de jeunes femmes qui les attendaient sur le trottoir d'en face.
Quel prestige!
Et c'est le prestige de l'uniforme. Mais quel uniforme! Attention! Et bon, on peut prendre aussi, parce qu'il est très connu, l'exemple du jeune Guinemer, qui à l'époque avait 19 ans, 19-20 ans, et qui avait conquis le cœur d'Yvonne Printemps, Yvonne Printemps, qui était une artiste lyrique très en vogue à l'époque. Et tout Paris connaissait cette liaison. Alors, on a, comme cela, beaucoup d'anecdotes qui sont rapportées. Maintenant, quel est le vrai du faux ? Il est certain qu'on peut dire qu'il y a une tentation, évidemment, à flatter son amour-propre et son égo. Mais je pense quand même que, par rapport à d'autres militaires, les aviateurs avaient un bonus, si je puis dire. Dans leur vie quotidienne, les aviateurs sont installés sur des terrains d'aviation, plus ou moins sommaires, en général de grandes prairies, qui sont situés en arrière des lignes, 20 km à peu près en arrière des lignes, dans un environnement qui est envié par les autres soldats. En effet, au milieu des bois, dans les prairies, le bruit du canon est assourdi, on peut dormir correctement. Donc c'est déjà une bonne chose. Et on peut se dégourdir les jambes aussi par rapport à l'immobilité de la tranchée. Généralement, ils ont une chambre pour deux dans des baraques en bois garnies de carton bituminé, et ils disposent d'un poêle à charbon. Quelquefois, quelques privilégiés peuvent bénéficier d'une chambre seule. Alors, il y a divers baraquements sur ce terrain, évidemment, les ateliers de réparation, les ateliers, les hangars d'avion, etc. Et bien sûr, il y a le mess de l'escadrille. Et à côté du mess, l'élément essentiel, le point nodal, c'est le bar. Le bar qui est toujours très fréquenté du matin au soir, mais avec de fortes poussées en fin d'après-midi et en nocturne. Alors dans ce bar, eh bien, nous avons un phonographe où on écoute les airs en vogue à l'époque. On discute ardemment, on discute du dernier coup qu'on a fait contre l'adversaire, les astuces qu'on a utilisées. On joue aux cartes. À quel jeu joue-t-on ? Eh bien, le poker a beaucoup de succès. On joue aussi au bridge. On boit beaucoup. On boit des boissons chics, du Porto, du Martini. Et à la moindre occasion, on boit du champagne. Quand on a descendu un avion, quand on reçoit des stagiaires venus d'autres escadrilles, enfin, ou d'autres éléments de l'armée, c'est toujours le champagne. Donc, il n'y a rien de commun avec les épreuves qui sont subies par les poilus. Le froid, la gadoue, les poux, les rats, les soupes froides, l'odeur des cadavres, l'intensité des bombardements, la misère, pourrait-on dire. Et d'ailleurs, quelques aviateurs sont passés par les tranchées avant de pouvoir intégrer l'aviation, parce que ce n'est pas toujours facile. Et souvent, il faut du piston, comme on dit. Ils se rendent compte de la différence et ils le disent, rien à voir. Enfin, ils peuvent aussi, là, quand les circonstances s'y prêtent, faire une virée en ville. Ça, c'est la grande idée, toujours, de faire une virée en ville, parce que, bon, on a beau jouer au jeu pendant un certain nombre d'heures ou regarder le ciel, on finit par s'ennuyer. Donc, on va en ville. La ville n'est jamais très éloignée, d'ailleurs, ville de garnison. Et surtout, on veut aller à Paris, où les aviateurs ont un quartier général, un bar qui s'appelle le Cintra, à côté des grands boulevards, boulevard des Italiens. Ils s'y rencontrent entre escadrilles diverses. Et puis, quand ils sont à Paris, eh bien, ils font ce qu'on pourrait appeler la tournée des Grands-Ducs. Ils vont au théâtre, ils vont au music hall. Certains même vont chez Maxim's, un petit souper en compagnie galante. Et cela est tout à fait possible, même pour quelqu'un qui n'est pas issu d'un milieu particulièrement favorisé, parce que la solde des aviateurs, globalement, ou des navigants plutôt, pour être plus précis, est quasiment la double de celle des autres officiers ou sous-officiers. Donc, c'est de ce côté-là, c'est la belle vie. Et évidemment, elle suscite des jalousies et des aigreurs.
Quel est le revers de la médaille ? Il doit bien y avoir une autre réalité derrière cette vie de château, pourrait-on dire ?
Exactement.
Vous écoutez Radio Royan et les rendez-vous avec l'histoire.
Tout n'est pas dans le plus beau, dans le meilleur des mondes. Et si le métier d'aviateur explique que des jeunes gens soient très attirés pour une vie qu'ils veulent très intensive et trépidante, c'est évidemment quand même une existence pleine de dangers. Alors d'abord, il y a les conditions de vol, surtout au début de la guerre. Les instruments de bord sont réduits à la plus simple expression. Il n'y a pas d'altimètre. Il n'y a pas d'inhalateur d'oxygène, quand on monte quand même à des altitudes de 2000-3000 mètres. Il n'y a pas de compteur de vitesse, et même un temps, au début, pas de pare-brise, et même pas de boussole. Donc, vous imaginez que pouvait être la navigation dans ces conditions quand le ciel n'était pas des plus clairs. Et souvent, d'ailleurs, les aviateurs s'égaraient. Hein. Autre chose aussi, c'est dans l'usage même de l'appareil, le piqué par exemple, hein. La descente, ce qu'on appelait en vrille, se faisait à une très grande vitesse et provoquait des bourdonnements d'oreilles. Enfin, il faut aussi songer à un froid en hiver, à un froid redoutable. En hiver, en altitude, à 3-4 000 mètres, on pouvait atteindre des températures de moins 30 ou moins 40. Et donc, cela provoquait des gelures sur le visage, sur les mains. Quelquefois, il fallait même aller à l'hôpital. Donc, c'était extrêmement douloureux. Et les missions, qui pourraient sembler assez courtes, généralement, elles duraient une heure et demie à peu près, mais il faut y ajouter les vols d'entraînement. Ces missions se doublaient quand il y avait les combats. L'horaire était alors beaucoup plus lourd. C'était 3-4 heures en vol. Et cela entraînait une très grande fatigue physique. À leur retour, souvent, les pilotes, quand ils descendaient de l'avion, les observateurs aussi, au demeurant, titubaient. Ils étaient aidés par les mécanos. Et ils n'avaient qu'une seule idée, c'est dormir. Hein. Ils s'étalaient sur leur lit. Donc, ce n'est pas une vie facile, loin de là, et les dangers sont toujours restés très grands. Déjà, danger dans les écoles d'aviation, où l'on apprenait à voler. Les accidents mortels étaient en effet assez fréquents. Alors, ça la tenait au matériel qui était très fragile, surtout au début, et au fait que, par la suite, eh ben, on donnait des avions que l'on trouvait hors d'usage, ou très abîmés sur les théâtres d'opération, on les redonnait aux écoles. Donc, matériel pas toujours très fiable. Matériel, mais aussi beaucoup d'erreurs humaines. Beaucoup d'erreurs humaines. Guynemer a écrasé deux fois en atterrissage. L'atterrissage était souvent difficile. Et il a écrasé deux fois son avion, au point que son moniteur de Guerlas voulait le renvoyer. Le fameux Guynemer. Et alors, a fortiori, sur le front, à partir de 1917, il y a eu intensification des combats, sophistication du matériel. Le matériel, ce n'était plus des ailes en toile et des avions en bois, mais des fuselages en métal. La vitesse qui était de 80 à 120 km à l'heure passe à plus de 220. Donc c'est tout à fait autre chose. Et là, c'est évident que la sophistication justement de ce matériel accroît les risques et les dangers jusqu'aux dangers mortels.
Un taux de mortalité assez élevé dans l'aviation militaire.
Et du coup, le taux de mortalité était assez élevé. Et il y avait un adage... Hein, comme les aviateurs vivaient au quotidien, un adage circulait dans les messes. Si vous tenez un jour, vous pouvez tenir une semaine, vous pouvez survivre. Et si vous tenez une semaine, vous pouvez tenir un mois. Et un autre adage qui circulait chez les pilotes italiens, lorsqu'ils avaient descendu un adversaire, ils disaient « aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi ». Et très souvent, le matin, on voyait le camarade, on prenait son déjeuner avec lui, et le soir, la chaise était vide.
Ils seraient parfaitement heureux, les pilotes de l'escadrille Lafayette, si leur espérance de vie n'était pas de 3 semaines au combat. Cette statistique geignarde ne les empêchait pas de vivre et de s'amuser, loin de la boue des tranchées. Ils avaient l'avantage immense de pouvoir aimer, dîner et boire dans des endroits décents, avant de marcher à la mort.
Donc, au total, des pertes considérables. On estime que sur 16 500 pilotes et 2 000 observateurs, il y a eu 4 750 décès. Et globalement, la mort a frappé un pilote sur 5, tandis que dans l'infanterie, c'était un soldat sur quatre, donc légèrement supérieur quand même, un soldat sur quatre qui était tué. Mais en tout cas, ce taux de mortalité élevé tord le cou à un cliché qui a longtemps perduré, à savoir que les aviateurs étaient des embusqués, avaient la belle vie et ne s'en faisaient pas. Donc il ne faut jamais oublier quand même cet aspect.
Une légende dorée s'est constituée quand même autour de ces aviateurs, que ce soit dans l'opinion publique ou dans les journaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu en quoi elle a consisté et comment elle a été relayée?
De fait, les aviateurs sortent, je vous l'ai dit, sont détachés d'armes différentes et ne constituent pas encore une arme. Alors tout le problème pour eux, c'est de savoir d'où sortons-nous, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut avoir une identité? Et évidemment, ils sont efforcés de se construire une identité. Venant d'un monde à la fois sportif, de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, doté d'un fort capital culturel, il y a donc eu une sorte de fusion qui s'est opérée et qu'on a pu appeler l'esprit aviateur. Alors cet esprit aviateur, eh bien, je dirais qu'il s'exprime d'abord dans un discours stéréotypé. Un discours stéréotypé qui se fonde sur l'idée d'une communauté étroitement unie par une même passion, l'aviation, peu soucieuse de hiérarchie militaire, où l'individu est jugé sur ses seules qualités de professionnel. C'est cela qui compte en priorité. Alors, étroite solidarité, ils le manifestent à maintes reprises, ils utilisent très fréquemment dans leur vocabulaire le terme « on est une famille, on est comme les doigts de la même main », ça devient, je dirais, pratiquement une litanie. On est un club aussi, on est un club un peu fermé. Et puis surtout, revient souvent l'idée, ils disent, chez nous, il n'y a pas de différence de galon. Entre le lieutenant, le sous-lieutenant ou le capitaine, pas de différence de galon, on est tous au même niveau, on est tous des aviateurs. Et certains même vont au-delà en disant, même avec les mécanos, nous sommes dans une étroite solidarité, le pilote et le mécano ne font qu'un, la vie du pilote est dans les mains du mécano. Donc là aussi, une étroite solidarité. Étant des nouveaux venus, ils ne peuvent pas se référer comme d'autres soldats à des traditions glorieuses et anciennes, songeons à la cavalerie, et quand on songe à la cavalerie, on pense à Murat. Bon, il y a eu aussi des épisodes dans la Légion étrangère à Cameroun, au temps de la guerre du Mexique sous Napoléon III, où les légionnaires ont tenu contre une horde de Mexicains. Tout ça est répété et répété de génération en génération, de jeunes officiers qui entrent dans ces armes. Alors les pilotes qui n'ont rien, eh bien, ils vont se construire une propre représentation d'eux-mêmes, un imaginaire qui se fonde sur la légende des chevaliers médiévaux, les chevaliers sans peur et sans reproche, des chevaliers qui présentent toutes les caractéristiques de l'époque, c'est-à-dire ils ont la hardiesse, le goût du risque, la loyauté, le respect de l'adversaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On combat à armes égales. Et en somme, comme dans un tournoi. Alors là, nous avons des clichés qui vont se perpétuer dans la presse et dans le public, alors pendant de nombreuses années. Et les anecdotes ne manquent pas. Bon, l'une des plus répétées, c'est celle de Jean Navarre, premier pilote qui a obtenu 10 victoires dès le printemps 1916. Et après un combat victorieux, contre son ennemi qui blesse, il se pose à côté de lui, l'extrait de son appareil et l'invite à prendre un café au bistrot du coin. Une sorte, en somme, de bonne intelligence qui s'instaure entre les adversaires. Autre indication intéressante, quand deux avions allaient commencer un combat, ça, c'était surtout au début, à vrai dire, le combat singulier, en quelque sorte, qui rappelle le tournoi. Les deux pilotes se saluaient avant de se mitrailler.
Oui, effectivement, ça nous fait penser au code de la chevalerie de l'époque médiévale.
Oui. Et d'ailleurs, il y a des poèmes à l'occasion de soldats morts, comme on dit, au champ d'honneur et qui sont enterrés. Certains, dans des vers de Mirliton, pourrais-je dire, évoquent ces chevaliers, ces preux, etc. Les termes reviennent très souvent. Hein. Ça, c'est très net. Et alors... ce que l'on peut voir aussi, quand un prisonnier, par exemple, quand les Français faisaient un prisonnier allemand, eh bien, ils envoyaient un message dans les lignes allemandes pour dire qu'ils avaient un prisonnier, monsieur Untel, le lieutenant Oberfeld ou je ne sais pas lequel, était vivant dans leurs lignes. Et les Allemands faisaient exactement la même chose. Et alors... le respect de l'adversaire atteint son point d'orgue, on peut dire, au moment où il est tombé au champ d'honneur. L'usage est en effet de jeter une couronne mortuaire à l'endroit où il a été tué, et souvent alors dans les lignes adverses. Ainsi, quand Roland Garros avait explosé dans son SPAD, c'était un avion de chasse, le SPAD, le dernier... modèle des avions de chasse le plus performant, eh bien, il y a trois avions allemands qui sont venus jeter des fleurs le lendemain à 20 km à l'intérieur des lignes.
Le 1er avril 1915, Roland Garros, un des as de l'aviation d'avant la guerre, pointe le nez de son monoplan sur un avion allemand. Le pilote ennemi n'en revient pas. Les balles passent à travers l'hélice en action sans la toucher. En deux semaines, Garros abat, grâce à cette invention géniale, 5 avions ennemis coup sur coup. Les Allemands sont totalement surpris. Il devient le premier as du monde. Le secret est préservé pendant 18 jours exactement. Les Allemands réussissent à le capturer après un atterrissage forcé. Ils apprennent qu'il a des déflecteurs d'acier montés sur son hélice. Sur chaque série de 100 balles tirées, la mitrailleuse frappe 7 fois les déflecteurs. Les ricochets sont donc dangereux pour Garros, mais les balles le sont encore plus pour l'ennemi. 93% peuvent toucher la cible.
Et alors, on rend les honneurs militaires. Il y a un fameux Allemand qui s'appellerait le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, un grand as de l'aviation allemande. Il a été descendu par des Anglais, le Royal Flying Corps, et on lui a fait des obsèques, je dirais pas grandioses, mais enfin, des obsèques qui avaient un caractère quand même très fort, avec le fanion du Reich, musique militaire, salve d'honneur, etc. Donc là, vous avez tout un cérémonial qui a été créé par les aviateurs. Mais à cet esprit chevaleresque, à ce temps de la civilité, va succéder l'efficacité. En effet, avec la prolongation du conflit, le nombre d'avions qui se multiplient et l'offensive qui reprend en 18, les avions volant rasmot, c'est très dangereux, à 50 mètres du sol pour mitrailler les colonnes ennemies. Eh bien, à partir de ce moment-là, je dirais, pour parler un peu familièrement, on ne se fait plus de cadeaux. Hein. Et à la fois par le changement de matériel, les progrès de l'armement, etc. La venue aussi de jeunes générations qui n'ont plus le même esprit que ceux d'avant, parce que maintenant on a des gros besoins dans l'infanterie aussi, hein, et qui ne sont plus nécessairement gradés, hein, ceux-là. Donc ils n'ont plus le même esprit, et donc les choses changent, et en conséquence, les tactiques aussi, de sorte que ce n'est plus le combat à la loyale. Il est tout à fait légitime d'utiliser la ruse et la traîtrise. Par exemple, il est courant de surprendre l'adversaire par derrière, alors qu'avant, on se voyait et on se battait frontalement. Et puis, même par le haut, alors René Fonck a été un as de l'aviation française, et sa tactique, c'était de dominer l'avion adverse, et il fondait sur lui comme un épervier. Bon, l'autre ne pouvait rien faire, il n'avait même pas vu. Donc, vous voyez, il y a de grands changements. Et ça a modifié la mentalité collective et ça a rendu quelque peu obsolète le discours convenu, dirais-je, sur l'esprit de chevalerie.
Vous écoutez Radio Royan, les rendez-vous avec l'histoire en compagnie de Ronald Dubcher. Vous l'avez évoqué précédemment, il n'y aurait pas de hiérarchie dans l'aviation militaire. Tous sont égaux, qu'on soit aviateur issu de la noblesse, qu'on soit mécano. Est-ce que c'est vraiment la réalité ou c'est une image convenue ?
Oui, vous avez raison de poser la question parce que dans la réalité, les choses ne sont pas exactement telles qu'on les présente. Il y a évidemment une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, il y a d'abord une hiérarchie sur la compétence professionnelle dont j'ai dit combien elle était importante à leurs yeux. Alors d'abord, vous avez la chasse. Ceux qui sont au top niveau, au sommet, ce sont les chasseurs. L'aviation de chasse, ce sont eux qui sont les plus représentés, sur lesquels on fait le plus de publicité. Mais au sein déjà de cette aviation de chasse, vous avez encore une catégorie supérieure, ce sont les as, ceux qu'on appelle les as. Qu'est-ce que c'est un as ? Un as, c'est quelqu'un qui a remporté au moins 5 victoires homologuées. Et sur ce plan, les Français sont beaucoup plus rigides pour l'homologation par rapport aux Anglais ou aux Allemands. Bon, il y a toute une série de critères, il faut qu'il y ait 3 observateurs, il faut qu'on retrouve l'endroit, enfin bon, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est l'homologation qui fait l'as. Et alors, ce sont eux qui sont évidemment les plus en vue, qui ont la plus grande renommée, qui ont le plus de décorations, de médailles, médailles militaires, croix de guerre avec palme, légion d'honneur. Et ce n'est pas le fait des Français, c'est dans toutes les armes, parce que la mentalité des aviateurs, en 14, elle est la même que ce soit chez les Italiens, que ce soit chez les Anglais ou les Allemands. Hein, c'est pareil. Et l'origine sociale est la même, j'insiste là-dessus. Alors, par exemple, le Canadien Billy Bishop, qui était un des grands as dans le Royal Flying Corps, reçoit la Victoria Cross, qui est une des médailles les plus prestigieuses. Le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, reçoit la Croix de Fer et la Croix pour le Mérite des mains de Guillaume Ier, de l'empereur Guillaume Ier. Vous voyez, c'est vraiment des soldats considérés comme hors pair.
Le Baron Cavalier apprend à voler au prix de nombreuses mésaventures. Fondant sur sa proie comme un épervier, il est vraiment chasseur. Chacune de ses victoires est pour lui un trophée. À 24 ans, Richthofen est le héros adoré des Allemands, l'as des as. Agréable, beau garçon, idole des filles, mais solitaire. Il écrit à sa maman 3 fois par semaine et passe ses loisirs à chasser le sanglier. Richthofen n'est pas un chasseur solitaire. Il a son cirque volant, 80 pilotes d'élite au triplan peint en rouge. Il change souvent d'avion comme le chasseur change de fusil. Le 21 avril 1917, il compte ses victoires. 80 victoires. Aucun as de cette guerre ne fera mieux. C'est le baron Manfred von Richthofen.
Parmi les Français, alors les plus titrés, c'est René Fonck, le capitaine René Fonck, qui a 75 victoires et 52 non homologués. Guynemer le suit avec 53 victoires et 35 non homologués.
Guynemer a l'air d'un enfant, fragile, les yeux ardents d'un tuberculeux. Il vit à 21 ans comme s'il était né pour balayer les cieux de tous leurs démons. Abattu lui-même à 7 reprises, il devait détruire 54 avions allemands. Le public l'adorait et le commandement lui demanda de cesser de voler. Pour ne pas courir le risque d'être abattu, il refusa. Le 11 septembre 1917, il disparaissait dans un nuage. Les petits-enfants des écoles disaient que Georges Guynemer avait volé si haut qu'il n'avait jamais pu redescendre.
Il y en a d'autres par la suite, Nunziger, Georges Madon, etc. Donc voilà, ça ce sont les as, et alors ça ce sont ceux qui sont les plus glorifiés et qui ont le plus de succès féminin aussi, il faut le dire.
Qu'en est-il des autres alors quand on...
Alors les autres, justement au-delà du discours que l'on entend sur la fraternité, l'unité, l'absence de différence, il y a quand même une hiérarchie non dite. Et comme j'évoquais les chasseurs, effectivement d'abord à l'égard, en premier lieu à l'égard des chasseurs, qui disent des autres aviateurs, qui ne sont pas des chasseurs, les bombardiers, aviation de reconnaissance, etc., ils disent, ce sont eux qui accaparent toute la gloire. Hein, toute la gloire. Les bombardiers disent, on n'est jamais cité, hein, ceux qui bombardent les bombardements de nuit qui ne sont pas faciles, par exemple, et il y en a eu déjà dès 1915, des bombardements de nuit. Ceux qui font de l'observation, ceux qui font de la reconnaissance c'est aussi quand même dangereux, dans les lignes ennemies. Bref, tout cela, ces gens-là, ils manifestent quand même une certaine aigreur et une certaine rancœur. Je ne parle pas des observateurs, et là on a un retournement, parce qu'au début de la guerre, les observateurs, on les recrutait, les pilotes étaient... se considérait d'ailleurs, il disait, c'est des chauffeurs de taxi. L'homme important dans l'avion, c'est l'observateur, parce que c'est lui qui fait les relevés. Après, ils vont faire de la photographie aérienne, etc. et tout. Et ce sont des gens qui sont plus diplômés au départ que les pilotes, hein, centraliens, polytechniciens, comme je le disais, etc. Bon, alors, les aviateurs, ils disent, nous, on parle jamais de nous, hein, et ils sont assez mécontents. Et ils se considèrent un peu comme les parents pauvres des pilotes. Donc, ils expriment un sentiment de manque de reconnaissance. Alors, d'un autre côté, on disait, c'est une micro-société sans classe, en quelque sorte, puisque le bourgeois, l'aristocrate, est à tu et à toi avec son mécano. Dans la réalité, eh bien, on constate que les pesanteurs sociales n'ont pas disparu. Avec les mécaniciens, s'exerce une sorte de paternalisme. Il s'exprime d'ailleurs dans le vocabulaire. On dit « Ah, ce sont des gens bien dévoués, ce sont de braves gens, ils nous aident à nous habiller, ils s'occupent bien de nous. Hein. » Ils font en quelque sorte l'ordonnance, d'une certaine façon, en dehors de la spécialité. Hein. Ils nous font descendre des avions. Mais il y en a un qui, quand même, montre le bout de l'oreille, un pilote, qui s'appelle Sarkis, et qui dit, entre les pilotes et les mécaniciens, il y avait une séparation. Nous étions à part, eux, ils étaient à part. Ça les aurait embêtés d'être avec nous. Eux, c'était le gros rouge, nous, on était au bar. Et je crois que rien n'exprime mieux ce sentiment de différence sociale, hein, que cette façon de voir culturellement la séparation par l'espace, par les lieux et par la nature de la boisson. Ça, c'est... Donc, voilà, de temps en temps, on a une réalité qui s'exprime.
Et puis Jean Renoir le montre aussi dans son film La Grande Illusion. La mixité sociale, en fait, n'est pas bien homogène, n'est pas bien présente. Quand les aviateurs et tout le personnel qui tourne autour se retrouvent au bar, eh bien on a d'un côté une connivence du monde connu avec ceux qui, par exemple, parlent anglais, les aristocrates, et puis de l'autre côté, une connivence parce qu'on a tous les deux travaillé à l'usine. On écoute tout de suite cet extrait.
Capitaine de Boileau, état-major. Enchanté.
Lieutenant maréchal, pilote.
Très honoré d'avoir des autres Français. Maintenant, monsieur, à table.
J'ai connu un Boileau à Berlin, un comte de Boileau.
Ah oui? C'était mon cousin Edmond Boileau. Il était attaché militaire.
He was a marvelous rider.
In the good old times, yes. Maintenant, il est aviateur dans la chasse.
That's all. Mais vous mangez pas?
Je ne peux pas goûter ma viande.
Vous permettez?
Avec plaisir, merci. Vous parlez bien français?
J'ai travaillé chez Gnome à Lyon.
Sans blague. Moi aussi, je suis dans la mécanique.
Dans l'extrait que nous venons d'entendre, tiré de La Grande Illusion, nous avions Pierre Freinet en tant que capitaine de Boieldieu. Vous avez reconnu également Jean Gabin, lieutenant maréchal, et puis Eric von Stroheim, le baron von Rauffenstein.
Froufrou, par son jupon, la femme, froufrou, l'homme, trouble l'homme, frou frou, frou frou.
Les Chevaliers du Ciel, donc pendant la Première Guerre mondiale, il est temps de conclure. Ronald, que pouvez-vous nous en dire ?
Eh bien, il paraît évident qu'en moins de 4 ans, l'aviation est un outil militaire dont personne maintenant ne discute plus l'utilité. Entrer dans l'histoire lorsqu'elle chasse du ciel les avions allemands à Verdun, ça a été la grande épopée en 1916, et elle a contribué à la victoire de Verdun, et on n'en parle pas suffisamment. Son rôle est confirmé lors de la bataille de la Somme et de l'offensive de 1918, où les avions français mitraillent les lignes allemandes en rase-motte. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au sein des escadrilles, les galonnés sont majoritaires, ils sont diplômés, ils sont issus de milieux sociaux favorisés et ils donnent le ton. On a donc là une sorte d'aristocratie, une nouvelle aristocratie qui s'est constituée. Ils cultivent le particularisme au sein de l'institution militaire. Ils ont su donner habilement, d'ailleurs, d'eux-mêmes une image très positive auprès du public. Et on peut dire que, d'une certaine manière, eh bien, ils ont introduit une forme de vedettariat dans l'armée, ce qui n'existait évidemment pas. Ils ont joui d'un relatif confort, on peut dire, pour l'essentiel d'entre eux, sans véritable rupture avec des habitudes et des pratiques sociales qu'ils avaient héritées de la vie civile. Ils s'autorisent une liberté vis-à-vis de la hiérarchie qui n'est nullement admise dans l'armée. Et on peut dire finalement qu'ils ont traversé le conflit à leur manière, mais qui n'était quand même pas la moins dangereuse. En somme, on peut dire qu'il y a eu deux manières de concevoir et de vivre la guerre, et sur ce plan, l'aviateur est l'antimodèle du poilu.
Merci Ronald pour cette présentation d'un sujet qui n'est pas très très connu, hein. Donc l'aviation militaire, les Chevaliers du Ciel pendant la Première Guerre mondiale. On se retrouve dans un prochain rendez-vous de l'histoire.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Pour compléter ce deuxième rendez-vous avec l'histoire consacré aux Chevaliers du Ciel, vous pouvez vous pencher dans la lecture de Guignemer, L'Ange de la Mort, par Jules Roy, publié en 1986 aux éditions Albin Michel. Également 1914-1918, Les aviateurs au combat, entre privilèges et sacrifices, écrit par Ronald Dubcherre. Deux propositions cinématographiques, La Grande Illusion, de Jean Renoir, sorti en 1937, et L'équipage d'Anatole Litvak, sorti en 1935 et adapté du roman du même nom de Joseph Kessel. Et enfin, merci au documentaire 14-18 Les As de l'aviation qui a illustré cette émission. Il s'agit d'une production CBS News. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire consacré à la représentation des paysans dans l'imaginaire social. Thank you.